Question d'actualité du mercredi 17 avril, Julien Corone au micro, Daniel Fortin comme d'habitude à la réalisation et aujourd'hui c'est David Santarossa pour sa chronique. Bonjour David.
Bonjour Julien.
Avec toi, on va discuter de deux sujets. Tout d'abord, on va revenir sur le Conseil national du PQ qui a eu lieu le week-end dernier à Drummondville. On va parler de l'aspect proposition en immigration et ensuite on parlera de la chronique de Bill Maher dans son émission Real Time sur HBO, une chronique qui a fait beaucoup parler dans les derniers jours, principalement au pays, au Canada et au Québec, parce qu'elle critique de manière assez incisive le Canada woke de Justin Trudeau. Revenons tout d'abord sur le Conseil national du PQ si tu veux.
Oui, bien sûr. Donc PSPP qui Paul Saint-Pierre Plamondon demande le gel de l'immigration temporaire. Donc on le sait, au Québec on a tendance à beaucoup parler de l'immigration permanente, mais on se rend compte que c'est une petite partie de l'immigration totale que le Québec reçoit dans les dernières années. C'est surtout l'immigration temporaire qu'on reçoit. Et puis là, c'est ça, PSPP appelle à un gel de tout ça parce qu'il dit qu'il y a une forte pression sur le logement, ce que d'ailleurs les banques sont d'accord aujourd'hui avec lui. Et puis sur les services publics, là on le sait dans les écoles, ça met certaines pressions, notamment dans les classes d'accueil de francisation. Là.
Et si tu veux, comme pour rappeler, pour le gel en plus, c'est pas gel, on stoppe tout, c'est juste qu'on fait en sorte que les niveaux ne dépassent pas les niveaux actuels pour pouvoir les baisser au fur et à mesure afin de retrouver des niveaux normaux où la capacité d'accueil et respecter la capacité de francisation l'est aussi. Mais de l'autre côté, beaucoup d'entreprises, beaucoup de regroupements, chambres de commerce et d'autres regroupements du milieu des affaires expliquent que ce genre de proposition de gel, c'est contraire à la demande de plus en plus de main d'œuvre et ça pourrait faire du mal à l'économie. Est-ce vrai?
Mais ça, c'est une question importante parce que c'est vraiment l'argument qu'on nous ressort tout le temps. Donc, premièrement, est-ce vrai? Bien, on le sait évidemment que l'immigration, oui, peut en partie combler une pénurie de main-d'œuvre, mais en même temps, elle va augmenter aussi la demande parce qu'évidemment, quelqu'un qui arrive ici a besoin justement d'un logement, d'un dentiste, d'une épicerie, etc. Donc, on le comprend tout à fait. Ensuite, si on regarde la création de l'emploi au Canada, ben on se rend compte que tout ça passe essentiellement par le secteur public. On le sait notamment, on le sait que même le gouvernement du Québec a augmenté, je pense depuis que la CAQ est là, c'est quelque chose comme 10 000 fonctionnaires de plus. Au Canada, le fédéral, c'est 100 000 depuis que Justin Trudeau est au pouvoir.
Il y a même une, tu me permets, je me souviens hier soir en préparation de l'entrevue, en lisant un peu les notes que tu m'avais pu m'envoyer, je suis tombé sur un tweet sur X du patron de Shopify qui prenait l'entreprise de magasinage en ligne qui est situé à Montréal. Il prenait un graphique qui montrait le taux de croissance d'emploi dépendant des secteurs et donc on voyait le secteur public largement au-dessus du secteur privé et disait il y a problème et beaucoup d'économistes expliquent que quand la croissance est forte c'est le seul moment où ça est, le seul endroit où c'est fait dans le monde c'est des systèmes communistes où la croissance devient plus faible, où le seuil de pauvreté, le niveau de pauvreté augmente et donc c'est des choses qui peuvent être mauvaises pour l'économie.
Oui, c'est franchement inquiétant. Donc, est-ce que c'est finalement le secteur public qui vole en quelque sorte des employés au secteur privé? Ben, peut-être que c'est en partie le cas, du moins. Or, on parle très, très rarement de ça. Et pourquoi, finalement, on peut se poser la question, pourquoi le nombre de fonctionnaires augmente? Ben, évidemment, la population augmente de manière très, très importante dans les dernières années. Ben, évidemment. C'est une population qui augmente, ils ont besoin de davantage de fonctionnaires. Donc, tout ça est un peu lié. Donc, j'ai l'impression que les organismes comme le Conseil du patronat se met le doigt dans l'œil en ce sens. Mais on comprend qu'eux autres aussi veulent augmenter, veulent qu'il y ait un marché encore plus grand au Canada pour vendre davantage. Et puis, donc, je pense que c'est tout ça, finalement, est un immense mensonge, l'idée que, finalement, l'immigration comblerait la pénurie de main-d'œuvre. Je veux dire, il y a 1,2 millions de personnes qui sont rentrées au Canada dans les 365 derniers jours. Si c'était une solution, je pense qu'on le saurait.
Et surtout qu'il y a une augmentation du taux de chômage au Canada qui est quand même assez soutenue. Donc à partir de là, c'est que cette immigration ne vient pas combler la pénurie de main-d'œuvre. Au contraire, elle participe à augmenter le chômage parce que le volume est tellement gros que le pays n'est pas capable d'absorber. Et on parlait même des fonctionnaires. C'est que certes, la taille de la fonction publique augmente, mais à quel endroit de la fonction publique est-ce que les citoyens voient leurs services améliorés? Est-ce qu'il y a plus d'accès, il y a plus de possibilités de voir un médecin, une infirmière quand on va à l'hôpital? On voit au contraire les temps d'attente qui augmentent. La semaine dernière, j'ai pu aller aux urgences du CHUM, c'était un 18 heures d'attente pour une brûlure au second degré. Donc à partir de là, c'est ce genre de choses. Les services diminuent, le chômage augmente et la pression migratoire pose d'énormes problèmes. Ce qui a amené à dire PSPP durant son congrès que le Canada de Justin Trudeau cherche à effacer le Québec. Beaucoup de personnes sont tombées sur lui. Je vais prendre l'exemple d'Antoine Dionne-Charest qui disait que c'est un discours conspirationniste. Qu'as-tu à dire sur ça?
Ah ben, je pense que c'est un peu une évidence. Je veux dire, peut-être que effacer c'est un peu fort, mais on comprend l'idée, c'est-à-dire qu'il y a un désir d'assimilation clairement. Tu sais, je veux dire, si on regarde, regardons les populations francophones dans le reste du Canada. Ouais. Ce sont des populations qui se minorisent constamment, qui se battent constamment pour avoir des services en français. Ils ont tout mon respect, bien sûr, mais en même temps, ce n'est pas une position enviable pour eux. Est-ce qu'en restant dans le Canada, on se dirige vers des situations comme ça? Dans un Canada, on se répète, dans un Canada de 100 millions de Canadiens, il y a de fortes chances que qu'on va se diriger vers justement une minorisation de plus en plus importante du Québec. Et ça me paraît clair, ça me paraît évident. Et la question, j'avais déjà écrit un texte là-dessus d'ailleurs dans la presse, j'avais dit la question de l'urne qu'on devrait poser, c'est toujours, ça devrait être la question du Québec en 2100. Quel Québec voulons-nous en 2100? Est-ce que c'est un Québec qui est constamment minoritaire, qui devient quelque chose comme 10%, 10-15% du Canada, ou bien on veut devenir 100% de nous-mêmes, là, pour reprendre une formule habituelle.
Mais de l'autre côté, si je me fais l'avocat du diable, un Mark Miller, ministre de l'Immigration fédérale, explique que le Québec aussi, s'il a tout le pouvoir de pouvoir accepter de ne pas rester minoritaire en faisant entrer les gens, mais Mark Miller, de l'autre côté, est-ce qu'il parle de francisation et de faire en sorte de maintenir cette société distincte? Donc comment est-ce qu'on pourrait peut-être trouver un juste milieu?
Ben voilà, c'est-à-dire, soyons sérieux un instant, est-ce que l'intégration est possible? Assurément. Toi-même, Julien, tu es français, tu es né en France, moi-même, sans t'en ça, j'ai des origines italiennes, manifestement, l'intégration est possible. Mais est-ce que, lorsqu'il y a des volumes d'immigration tels qu'on le connaît actuellement, ça devient possible? Ben malheureusement, je pense que ça devient très, très difficile. On a vraiment basculé dans les dernières années dans un autre système d'immigration, étant donné le nombre.
Et même sous façon de parler l'Empire britannique, ce genre de migration massive, de flux migratoires massifs, il n'y avait pas ça. Il y avait les systèmes permettaient quand même de pouvoir absorber cela. Par exemple, l'État québécois, l'Église et tout ça, ont permis de pouvoir créer cette survivance et ce maintien. Ici, là, on voit que le système faillit et on le voit avec la chute du français, que ce soit à Montréal, mais maintenant de plus en plus en région.
Voilà, exactement.
Et de l'autre côté, l'autre sujet que tu voulais nous parler, c'était le Canada Woke critiqué aux États-Unis. Bill Maher a pu faire une chronique sur ça dans son émission sur HBO. C'est une chronique qui a fait beaucoup parler dans les derniers jours. Explique-nous un peu tout ça.
Oui, donc c'est une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube assez facilement de Bill Maher. Qui est d'ailleurs un gars assez de gauche, qu'on a identifié à la droite dans les dernières années parce qu'il a justement défendu la liberté d'expression et ce genre de
concept.
T'imagines,
c'est de droite maintenant défendre la liberté d'expression.
Oui, voilà, exactement. Et qui a dit que finalement, peut-être que le Canada était mieux avant que les États-Unis, mais ce n'est plus le cas. Et il cite notamment l'augmentation du taux de chômage, la crise du logement, qu'une maison est beaucoup plus chère au Canada qu'aux États-Unis. Et lui, il met ça, un homme de gauche qui dit que finalement le Canada est peut-être allé trop à gauche, est devenu trop woke. Donc c'est vraiment un message, je pense, qui a un certain écho dans sur les médias sociaux, en tout cas, donc qui justement montre que finalement, oui, on peut aller trop à gauche. Et je pense que le Canada en est un exemple à suivre avec Pierre Poilievre qui sera peut-être au pouvoir.
Mais si on peut aller un peu plus loin dans cette analyse, c'est qu'on le voit, ça participe aussi à beaucoup de choses qu'on a discuté ensemble, même David, dans des différentes chroniques que tu as pu faire sur Radio-VM, que ce soit avec Jean-Philippe Trottier ou à mon émission Le Monde d'aujourd'hui, c'était que le curseur change. Et donc, façon de parler, toute critique, même une critique soutenue, recherchée, va être considéré comme de droite par certains gens woke. que Bill Maher explique qu'il y a l'immigration, le poids de l'immigration, on en parlait, mais il y a aussi des politiques, il prenait l'exemple de l'enseignante trans en Ontario, des politiques qui ne sont pas acceptées, qui placent des gens normalement sensés, qui se disent sensés dans le sens qu'ils ne sont pas prêts à aller voter à droite ou à l'extrême droite, qui sont de gauche, mais qui se disent que peut-être le seul moyen de nettoyer tout cela et de ramener tout cela à la raison, c'est d'aller voir le camp d'en face. Et donc ça fait en sorte qu'un camp de gauche normal se dit que la gauche actuelle a perdu la raison, donc je pars de l'autre côté. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump, c'est une des raisons pourquoi il a gagné en 2016 avec, face à Hillary Clinton. C'est ce qui se passe avec Pierre Poilievre. On voit des chiffres, les jeunes voteraient majoritairement conservateurs en ce moment. Les classes populaires quittent le NPD pour le PCC. Il y a des éléments qui montrent cela.
Oui, tu as entièrement raison. Donc, traditionnellement, il y avait une gauche du peuple, en quelque sorte, hein, une gauche qu'on pourrait dire universaliste, qui se disait, vous savez quoi, le marqueur de l'inégalité sociale, c'est quoi? C'est celui de l'argent. Et on va faire nos politiques sociales en fonction de ça. Donc, si tu es sous un certain seuil de pauvreté, tu vas avoir certains services. Ou même, dans certains cas au Québec, on a dit, vous savez quoi, les services, par exemple, de santé, les services de l'école, en fait, ça va être gratuit pour tous. Et ce sont des programmes qui ont, somme toute, assez bien passé, qui sont relativement radicales, n'est-ce pas? Mais qui ont bien passé dans la population, justement, parce qu'il n'y avait pas de discrimination. Il n'y avait pas de dire, ça s'applique pour vous, mais pas pour vous. Donc, non, il y avait une égalité de tous les citoyens. Bon, est-ce qu'après ça, il y a eu des ratés dans le système? Oui, mais ça, c'est une autre question. C'est pas la question de fond.
Tu parles d'universalisme, ce qui m'amène à un petit instant promo. À la fin du mois, pour le dernier week-end du mois d'avril, on a le colloque sur l'universalisme de l'Association des Québécois unis contre le racialisme, la CUR, qui est l'ancienne association de feu Frédéric Bastien, dont Muriel Châtelier maintenant s'occupe de ses activités. Et j'aurai l'honneur de pouvoir être à ce colloque, de pouvoir le présenter, de mener une entrevue avec Rachel Kahn, en plus, la grande sociologue et penseuse française. Donc ça va être intéressant et vous pouvez aller sur le site de la CUR, cher auditeur, pour pouvoir acheter un pass, soit pour en vidéo, soit pour assister. Le colloque aura lieu à la Grande Bibliothèque à Montréal, à la Banque. Donc, c'est aussi beaucoup d'éléments qui restent en question. Mais ma dernière question, David, avant de se quitter, David Santarossa, c'est quand on voit tous ces éléments, quand on voit toutes ces choses, ça permet un peu de revenir sur les propos de PSPP à propos d'immigration, à propos du Canada Woke. Quel choix on veut comme société? Est-ce que tu penses que les gens, malgré les discours de peur qu'on entend dans les derniers jours, qui disent « Ah, c'est conspirationniste », est-ce que je pense que les gens ont la jugeote pour comprendre que peut-être ce n'est pas aussi conspirationniste, aussi alarmiste qu'on le pense, et qu'il y a une part de vérité qui nécessite de prendre en compte de manière rationnelle ce discours?
Il existe une telle chose que le sens commun, n'est-ce pas, hein? Et là, on a vu dans les derniers temps, dans les derniers jours, certains articles qui rapprochent PSPP de l'extrême droite, d'idées d'extrême droite, hein? On rappelle, PSPP, c'est un homme qui, dans son discours de clôture, a parler entre autres de faire un pays pour les immigrants, pour les autochtones. C'est un politicien qui refuse catégoriquement de baisser les impôts, et c'est un politicien pour qui les pays scandinaves, c'est un modèle. Alors, si cette personne-là est une personne d'extrême droite, je pense que le commun des mortels a quand même un peu du jeu, justement, et tout à fait conscient. Et comprend tout à fait que finalement, non, il y a une espèce de gros bon sens. Tout le monde est d'accord avec l'idée générale que PSPP dit, que oui, il y a une culture québécoise qui est en danger avec une économie mondialisée, avec des taux d'immigration aussi importants que le Canada nous impose. Donc oui, il y a un sens commun qui va le remporter, là.
David Santarossa, chroniqueur, auteur, ton livre est toujours disponible. On peut toujours l'acheter dans les bonnes librairies. La pensée woke, analyse critique d'une idéologie. Et on te retrouve avec Jean-Philippe Trottier ou avec moi à la radio et sur d'autres médias. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous.
Merci, Julien.
David Santarossa, merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité. Julien Corona micro, Daniel Fortin en réalisation. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.